RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. Et c'est la rentrée, heureux de vous retrouver pour découvrir ensemble des romans, des récits, des histoires qui vont vous faire voyager loin du Covid-19. Pour la première émission de cette rentrée, je suis très heureux d'accueillir Véronique Olmy et puis une toute nouvelle et jeune romancière qui va nous épater, Capucine Delattre. Dans cette rentrée, il est souvent question de femmes, qu'il s'agisse de leurs blessures, leurs combats, leurs victoires aussi. Sabine, Hélène et Mariette sont chacune à leur manière débattantes. Les sœurs partent à la conquête de leur liberté, au risque de bousculer les équilibres familiaux. C'est le roman de Véronique Olmy, publié chez Albin Michel, Les évasions particulières. Anastasia est brillante, à 29 ans, elle est à l'aube d'une grande carrière quand elle est rattrapée par un cancer du sein. C'est le choc, la sidération, comment va-t-elle réagir? Et si c'était l'occasion d'un sursaut? Les déviantes, de Capucine Delattre, est publié aux éditions Belfond. Être une femme libérée, vraiment le thème de Au pied de la lettre sur RCF.
Au pied de la lettre, Christophe Héningue.
Bonjour Véronique Olmy.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir pour cette première émission de la rentrée avec un roman foisonnant, une grande fresque familiale et sociale. Alors, rien à voir avec Bakita, ce roman époustouflant, hein, paru il y a 3 ans, qui a touché beaucoup d'auditeurs RCF. Et pourtant, il y a quand même un lien autour de la liberté, de l'accomplissement, du destin.
Oui, c'est vrai que Bakita, c'était un être unique, mais avec une farouche volonté de vivre et de survivre dans son cas, et que là ce sont plusieurs héroïnes qui sont habitées par le même élan de vie. Alors leur vie est heureusement beaucoup moins volée, elles ont déjà une part de liberté acquise, mais c'est cet amour de la vie et l'envie d'y participer.
Bonjour Capucine Delattre.
Bonjour.
On peut le dire, vous avez tout juste 20 ans, c'est votre premier roman, d'une étonnante maturité, d'une force surprenante. Comment on se met à l'écriture d'un tel roman quand on a tout juste 18 ans, parce que le temps de l'écrire?
Ben avant tout, merci beaucoup. Alors en fait, moi j'ai toujours voulu écrire, et en fait j'ai toujours écrit, donc j'ai commencé à raconter mes premières histoires quand j'avais 7 ou 8 ans, donc c'était pas forcément brillant, mais voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup animée. Et je me suis, en quelque sorte, mise à écrire des romans dès le collège. Donc, Les Déviantes, c'est mon premier texte publié, mais finalement, ce n'est pas mon premier texte achevé. Donc voilà, déjà, je pense qu'il y a cette envie-là qui m'habite depuis très longtemps et qui peut-être explique le fait que je sois publiée à mon âge. Et pour ce qui est du thème en lui-même, du roman, c'est un roman que j'avais envie d'écrire depuis longtemps. Le thème de la maladie, c'était important pour moi. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que, par un mélange de passion et de travail, j'en arrive là aujourd'hui.
On va en parler aussi. Alors, des petits changements au pied de la lettre, avec une place toute particulière à la poésie. Stéphane Bataillon nous rejoindra, journaliste à la Croix Hebdo, poète et grand connaisseur de la poésie. Chaque semaine, il nous présentera un recueil, un poète, un événement. Et puis, il y a d'autres rubriques qu'on va découvrir au cours de l'émission. Les évasions particulières, c'est donc un peu la chronique des années 60 à 80. 3 filles, les parents Malivieri. Présentez-nous un peu cette famille, Véronique Olmy, dont on fait la connaissance dès la première page.
C'est une famille qui vit à Aix-en-Provence. C'est un milieu simple, mais pas démuni. Ce sont le père est instituteur à Sainte-Catherine. La mère, au début, est une mère au foyer. Et ce sont deux personnes qui sont issues de familles nombreuses. Ils sont les derniers de fratries nombreuses. Et en fait, ils se sont mariés à l'époque mineure, puisqu'ils avaient 18 ans, pour en s'aimant, mais aussi avec un désir d'affranchissement pour quitter des familles dans lesquelles ils étaient arrivés les derniers finalement, et on ne s'intéressait pas tellement à eux. Donc c'est un couple de parents qui fondent avec beaucoup d'amour, de conviction, une famille. Donc ils ont 3 filles et c'est une famille catholique. Ce sont, en fait, c'est un peu mes parents dans le par rapport à la religion. C'est-à-dire, moi, j'ai vu 2 êtres très engagés, très sincères, très honnêtes, très croyants, et dont la vie était régulièrement entravée par des menaces au nom d'une religion qui est pour moi celle de l'amour total, donc très difficile, hein, c'est un combat, mais avec une intrusion très forte dans la vie privée, qui fait que j'ai toujours vu mes parents ne jamais être à la hauteur, finalement, de ce qui était commandé, voire recommandé par l'Église. Et ça m'a... J'avais l'impression de voir, en fait, un gouffre s'ouvrir entre leur engagement et la façon dont ils culpabilisaient. Mmh. En permanence.
On sent qu'ils veulent, j'allais dire, transgresser le monde. Le mot est peut-être excessif, mais c'est un peu ça. Se libérer un petit peu, mais en même temps avec une part de
culpabilité, de honte, presque. Il y a un poids très fort. Oui, il y a un poids très fort. Moi, j'étais très impressionnée, petite, de penser que j'avais... Parce que ma maman avait perdu un bébé, son premier bébé, et on lui avait dit qu'il errait dans les limbes parce que la petite n'avait pas été baptisée, mais ondoyée. Et j'ai vraiment grandi avec cette douleur de ma mère, qui n'en parlait pas, mais on le savait, c'est diffus, Et je me demandais vraiment ce qu'était cet entre-deux. Et c'est finalement assez étrange de penser que on a cartographié le ciel avec le paradis, le purgatoire, les limbes, l'enfer, alors que c'est un tel fabuleux mystère. Il me semble qu'on aurait dû s'incliner devant ce mystère plutôt qu'essayer de d'en faire un territoire. Alors, il y a ces deux parents... qui vont, avec cette bonne volonté-là, élever 3 filles. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était que ce soit un moment où le monde explose. Et c'est un livre sur le retentissement. C'est-à-dire, je ne voulais pas que ça se passe à Paris. Je ne voulais pas que ça se passe en 1968. Je voulais que ça se passe en province, après 68, dans une famille qui, a priori, n'est pas acquise à la cause. Je parle de la cause des femmes, puisque c'est vraiment une décennie. Le roman va jusqu'à l'élection de Mitterrand. C'est vraiment une décennie très, très, très importante, fondatrice pour la libération de la femme, avec tout ce qu'on connaît, Simone Veil au gouvernement Chirac.
Puis des affaires retentissantes aussi, dont vous
parlez.
Des
affaires retentissantes, le combat de Gisèle Halimi. Beaucoup de choses se passaient à Aix, au palais de justice de Aix. Il y a eu ce qu'on a appelé le procès du viol, qui a été un drame, mais également l'opportunité pour Gisèle Halimi de non seulement défendre ses victimes, mais également de contester une loi, qui est la loi de 1920. Et c'est la force de Gisèle Halimi, c'était quand elle défendait une cause, la cause était symbolique d'une loi mal faite. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'était d'essayer de détricoter comment le politique et le législatif influaient sur la vie privée et vice-versa. Parce que finalement, il y a eu beaucoup de révoltes, il y a eu beaucoup de gens qui sont descendus dans la rue, qui ont manifesté. Et c'est ces deux pôles comme ça qui en fait ont des échos et des retentissements chez... Mes 3 héroïnes, quand le roman commence, elles ont 14, 11 et 3 ans, et on va les voir chacune à sa façon, chacune avec ses rêves, chacune avec son caractère, avec ses maladresses, avec ses engouements, essayer de devenir elles-mêmes et de trouver leur... comment oser même rêver. Seulement atteindre ses rêves, c'est comment oser les rêver.
Parce que c'est une famille très soudée, on sent les 3 filles, les 3 sœurs très attentives l'une à l'autre et en même temps, elles sont chacune sur des chemins très différents, très indépendants finalement.
Elles sont très différentes, elles ont des rêves très différents et ce qui m'intéressait, c'était de montrer la famille comme un échiquier, c'est-à-dire qu'au départ, une famille, c'est deux parents qui décident d'avoir des enfants, donc ils sont les parents. Après, il y a l'aîné, il y a la cadette, etc. Dès que quelqu'un bouge, et forcément on bouge parce qu'on grandit, que la vie est un mouvement, hop, les pions
rôles
bougent.
Se redessinent.
Et c'est aussi un livre sur le temps, puisque on le sait très bien, les rôles sont distribués d'une façon éphémère, les filles vont s'en aller, les parents vont vieillir, donc finalement petit à petit on va tous changer de point de vue, changer de place, et c'est un bouleversement à chaque fois. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on a besoin de partir, et en même temps l'affranchissement n'est pas la fin du lien. Et c'est très étrange de voir comment on est retenu et comment on est soudé, même de façon inconsciente, au pôle familial.
Pourtant, dès le début, vous créez une sorte d'injustice entre les trois filles. Il y a Hélène, au milieu, qui profite de la générosité de l'oncle qui est à Paris.
Ça, c'est mon histoire, en fait. C'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que moi j'ai vécu entre mes parents à Aix-en-Provence, où on était beaucoup plus nombreux que dans le livre, la situation pécuniaire n'était pas simple, et cet oncle à Neuilly, qui était beaucoup plus riche en vérité que dans le livre, et ce depuis mes 3 ans. Donc c'était
voilà, pour dire simplement, hein, depuis vos 3 ans, donc,
voilà,
et donc, l'héroïne dans le livre.
J'étais partagée entre
les
deux familles.
Voilà.
Et je me souviens que j'ai demandé à une de mes sœurs, mais quand je revenais, parce que je partais et revenais tout le temps, qu'est-ce que vous faisiez? Elle me dit, ben on ouvrait ta valise. Et donc je l'ai mis dans le livre. Je l'avais oublié. Peut-être qu'elle le faisait en cachette, je ne sais pas. Pour voir les habits que je rapportais. Qu'est-ce que je rapportais de là-bas? Et je trouve que c'est assez significatif. Pour moi, c'était une grande richesse parce que j'étais bien chez les deux familles, mais en même temps, il fallait s'adapter très vite dans les deux endroits, pas trop parler non plus des uns et des autres. Et moi, ça m'aide encore aujourd'hui à avoir une capacité à m'adapter assez vite à des gens divers et surtout, j'espère, à adopter les points de vue des uns et des autres. Parce qu'il y avait beaucoup de blessures dans cette histoire. Ma mère était très blessée. Que ben en même temps, c'est elle qui m'envoyait.
On sent
hein,
ce livre très autobiographique malgré tout.
C'est compliqué parce que je prenais pas l'avion toute seule à 3 ans. Il fallait bien qu'on me mette dans cet avion. Donc, c'est pas moi qui avais décidé de cette situation. Et en même temps, ça faisait souffrir mes parents. Et pourtant, ils étaient participants. Donc, je trouve que c'est ça qui est très intéressant. C'est de voir, c'est de voir comment chacun est à la fois plein de contradictions, de complexités, et je trouve que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui dans les faux débats. Aujourd'hui, tout le monde publie une tribune dans les quotidiens, dans les journaux, et la tribune de la veille répond à la tribune de l'avant-veille, etc. Mais il y a très peu de dialogue contradictoire, de dialectique. Et je trouve ça dommageable parce que c'est tellement fascinant d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre et de changer. Et le livre est là-dessus. Le livre, c'est comment on évolue, comment les barrières tombent, comment on est par exemple, mon héroïne Sabine, au début, elle est très, très, très choquée par l'avortement. Elle est fondamentalement mal à l'aise. Et Agnès, sa mère aussi. Et pourtant, par écho, on lui dit, voilà ce qui se passe, les femmes en meurent, est-ce que ce serait pas mieux qu'elles n'en meurent pas? Est-ce qu'on pourrait pas légiférer pour que les pauvres aussi puissent, celles qui ne vont pas en charter, voilà, c'est toujours une question finalement de classe sociale. Et c'est ce que je trouve formidable, c'est l'expression passer dans les mœurs. Comment tout doucement, ce qui nous paraissait la veille un scandale et le lendemain un cliché finalement. C'est ça qui est intéressant.
Et puis cette capacité que les trois filles ont aussi de s'adapter, vous en parliez pour vous-même, petit à petit, ces mouvements, ils sont pas... Alors si parfois, voilà, on fait la valise, on part à Paris. Mais en même temps, on sent que les liens sont parfois distendus, mais existent toujours.
Oui, c'est aussi ce soubassement-là qui fait qu'on appartient à un lieu, à une enfance, à des parents et plus à une généalogie. Et on porte en nous même ce qu'on ne sait pas. On porte en nous les... Moi, je me sens très soutenue par les femmes qui ont combattu avant moi et que je ne connais pas. Parce que, bon, dans le livre, je parle des combats du MLF, du MLAC et de toutes les anonymes et de Gisèle Halimi, de tout ce qu'on veut. Mais avant cela, même hors mouvement, même hors groupement, les femmes se sont toujours battues. On le sait très bien, pendant la guerre, pendant toutes les guerres, les femmes ont toujours travaillé. Il y a cette expression « femme au foyer »,« femme qui ne travaille pas », mais les femmes ont toujours énormément travaillé. Et moi, je me sens très... Je sens leur énergie, je sens que ça vit encore. Et c'est porteur, en fait, ce qui nous a précédés. Donc c'est vrai que le livre est à la fois ce dont on veut se dissocier, se différencier pour se trouver soi-même. Et en même temps, c'est complexe parce que on vient de quelque part.
Ce qui est complexe aussi, on le sent, vous le montrez bien, c'est que cette émancipation, elle passe aussi dans les histoires d'amour. Elles sont l'une ou l'autre amoureuses, mais c'est parfois difficile. On sent qu'il y a le modèle encore familial de stabilité, de couple qui exerce une certaine influence. Et malgré tout, une quête d'un amour vrai.
Oui, et puis il y a le regard des autres. Ah, mais il te va pas bien. C'est très important, la parole des autres, que ce soit dans la cour de récréation, les copines qui se moquent un peu parce que finalement, il faut faire comme si tout cela n'était pas si important, alors qu'au fond de soi, on est toujours en quête de l'amour absolu. Mmh. Et puis, il y a aussi le regard des adultes qui dit non, mais il est pas pour toi. Et ça influence et on voudrait ne pas être influencé. Et en même temps, ce sont des histoires d'amour assez maladroites, assez fantasmées, avec des possibilités en soi qu'on ignore encore et qui petit à petit vont apparaître, parce que je crois qu'on est beaucoup plus vaste que ce qu'on nous a finalement un peu programmé, puisqu'on arrive, et c'est normal, un enfant qui naît dans une famille, on le rattache tout de suite par le prénom qu'on lui donne, par le nom qu'il porte, par sa ressemblance, les ressemblances qu'on lui trouve, on le rattache à un clan, ce qui est bien en soi, mais c'est très dur après de dire je ne suis absolument pas ça. Regardez, je vais vous surprendre, ça va être génial. C'est ça qui est difficile.
Mais les parents sont... alors d'abord, ils veulent être vraiment des bons parents. Hein. Et quand ils voient les filles partir, ils disent à un moment, nos filles font ce qu'elles désirent, même si on n'y comprend rien.
Ben oui, c'est ça. En fait, c'est surtout le père. Ce qui m'intéressait, c'était que en miroir de ce combat des femmes et de cette évolution de chacune, il y ait un père qui soit bon, qui ne soit absolument pas macho, absolument pas misogyne, mais totalement dépassé. C'est-à-dire, il les aime tellement, sa femme et ses filles, il voudrait tellement les comprendre, mais il ne comprend pas et ça lui fait de la peine et il a l'impression d'être tout le temps, et il est en retard. Et pourtant, c'est un homme qui donne une présence et une tendresse qui nourrissent aussi bien que s'il avait compris. Moi, j'aimais bien que mon père avoue qu'il n'y comprenait rien parce qu'il était lui-même. Alors, parfois, ça faisait un peu mal, bien sûr, mais en même temps, il essayait pas d'être dans le coup et je trouve ça très beau parce que finalement...
Il restait lui-même.
Oui. Exactement. Il est resté lui-même avec son intégrité, son amour et ce que moi je nommais sa ringardise. Et c'est ça que j'aime fouiller dans les romans, c'est-à-dire ne pas donner de réponse, mais poser des questions face à cette multitude de différences.
Avec cette complicité, au regard de cette incompréhension parfois, cette complicité entre femmes. Entre la mère et l'une ou l'autre des filles sur les événements. On va pas dévoiler ce qui se passe, mais oui, c'est une complicité importante à cette époque où, justement, on se libère des contraintes, des règles, complicité d'autres, on a besoin de l'autre pour oser.
Avec
pour
le
oser.
Temps, je crois qu'il y a un moment où il faut déchirer le rideau et s'en aller. Alors, ça fait mal à tout le monde, mais c'est bien, c'est un beau mouvement aussi. Et puis... Après, on peut revenir, mais pour pouvoir revenir, il faut être parti loin quand même. Mmh.
Les parents, ils se croyaient heureux, ils étaient simplement obéissants.
Oui, c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut avoir envie d'être choqué, surpris et épaté par les différences de l'autre, par ce qu'il nous propose qu'on n'aurait jamais imaginé, ce qui n'est pas du tout dans notre paysage. Je trouve que c'est formidable de se dire. Mais comme quand on lit un livre, moi j'adore être bouleversée, choquée, me dire, mais qu'est-ce que, oh, je suis mal à l'aise, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah, mais lui il est bien comme ça. C'est une possibilité humaine. Je trouve ça fascinant.
Mmh. Ouvrir les possibles, quoi.
Ouvrir les possibles. Hier, je voyais des images de défilés militaires en Chine. C'était presque irréel, parce que c'était synchronisé, mais c'était comme un seul membre qui marchait. Et les visages des hommes, en uniforme, casqués, avaient tous la même expression. Fermés, déterminés. Et je me disais, mais quel bébé ont-ils été? Si jamais ils avaient pu grandir en liberté, mais comme, quelle richesse ça aurait été pour ce pays.
Et ça aurait été visible sur leur visage.
Il y aurait eu des poètes, vous auriez pu les inviter à votre émission.
Non, on peut les inviter. Capucine Delattre, vous avez lu Les évasions particulières. Qu'est-ce que ça vous a inspiré?
Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que justement par rapport à mon roman, j'ai aussi cette même question de quoi a-t-on besoin pour s'autoriser à rêver, et que j'ai retrouvé dans vos personnages. Et comment peut-on rester fidèle à soi, tout en s'autorisant à éventuellement convoiter d'autres horizons. Et comment se construire soi quand on a envie de se libérer, de s'émanciper? Est-ce que ça nécessairement passer par une destruction ou par quelque chose de violent? Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'ai également été très touchée par la relation entre les sœurs, justement, puisque elles sont dans une forme de gêne ou en tout cas de différence, puisque voilà, chacune a son parcours. Sabine qui est très ambitieuse, qui veut être actrice, qui est très très déterminée. Hélène qui est loin, puisqu'elle fait ses allers-retours entre Neuilly et Aix, et Mariette qui est toute petite, qui a un écart d'âge qui l'empêche d'être dans un vrai dialogue avec ses sœurs. Et pourtant on sent qu'il y a une forme de bienveillance, de sororité littéralement, puisque ce sont des sœurs, mais aussi de sororité dans le sens où elles sont solidaires les unes les autres et elles ne se jugent pas, alors qu'elles ont effectivement des vies très différentes, que certaines partent tôt, qu'elles n'obéissent pas forcément à leurs parents, et pourtant voilà, on sent qu'elles ont cette empathie là et ça m'a beaucoup plu.
Il y a le théâtre aussi, hein, qui joue un rôle important. C'est un peu vous aussi, ça?
Oui, et il y a les animaux aussi.
Les animaux, c'est vrai, avec pour
Hélène.
Une part
très importante sur les animaux. Il y a une très jolie phrase de Mathieu Ricard qui dit que plaider pour la cause animale n'est pas une spécialité, mais une cohérence. Et je trouve que ça fait partie. Aujourd'hui, on se penche beaucoup plus sur le ce qu'on appelle le bien-être animal. Ça fait partie aussi d'une façon de voir le monde qui est plus douce, qui est plus respectueuse justement de la différence et qui occulte une suprématie violente et inhumaine. Et je pense que c'est une partie aussi importante du livre. Hélène qui au départ demande est-ce que les animaux souffrent, on lui dit bien sûr que non parce qu'ils savent pas parler donc ils souffrent pas. Alors ensuite oui, les animaux souffrent, mais alors pourquoi ils souffrent, puis pourquoi souffrent-ils à cause de nous? C'est ça aussi le livre, et ça j'y tiens aussi beaucoup parce que je trouve que c'est totalement lié à la façon dont la femme veut se libérer. À un moment, il y a un personnage qui le dit, pourquoi on libère le noir, la femme, mais pas l'animal? C'est le livre de Peter Singer, La libération animale. Et c'est vrai que ça fait partie, il y a Brigitte Bardot, le combat de Brigitte Bardot depuis les années 60 est fondamental, courageux, pugnace, opiniâtre, mais très, 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 très important. Et Je pense que ça pourrait nous faire tellement de bien, ce respect-là.
Beaucoup de choses dans ce roman, Les évasions particulières de Véronique Colmy, publié chez Albin Michel. On va écouter juste un extrait lu par une voix, que les auditeurs vont très vite reconnaître.
Un matin, alors qu'elle attendait à la maternité pour la consultation du sixième mois, elle eut l'impression que toutes les femmes autour d'elle, dans les salles d'attente, de consultation, de travail, toutes les femmes portaient une promesse et une angoisse. Elles étaient enceintes et coupables. Coupables de vouloir ou de ne pas vouloir, coupables de leur peur, coupables de leur détresse, coupables de leur puissance. Elle attendait et elle se disait « Si le toubib ne m'appelle pas maintenant, je vais partir. Je vais m'enfuir. Je ne ferai pas partie du troupeau. » Mais la salle d'attente était plongée dans une immobilité qui paraissait éternelle. Personne ne se parlait ni ne se regardait. C'était un temps empli de solitude. Enfin, la porte s'était ouverte, l'assistante du docteur avait lancé un nom et une femme s'était levée, le respect et la timidité dans ses yeux. « Pourquoi sommes-nous timides ?» s'était demandé Agnès. Elle pensa aux filles mères, à leur bâtard, à leur bannissement. Elle pensa à l'attente suspicieuse de sa belle-mère dès qu'elle fut mariée. Alors, enceinte ou pas enceinte ?
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing.
Et oui, on a reconnu Bob Dylan au pied de la lettre aujourd'hui. Être une femme libérée, vraiment, eh bien, on en parle avec Véronique Colmy pour son livre Les évasions particulières, publié chez Albin Michel, et Capucine Delattre pour Les déviantes chez Bellefond.
Au pied de la lettre, RCF.
Les déviantes, Capucine Delattre. Alors, à 29 ans, Anastasia aurait pu faire partie de la famille des héroïnes de Véronique Colmy. Tout lui réussit, sauf que la nouvelle tombe, c'est la maladie qui la rattrape. Sidération, incompréhension, on n'est pas fait pour vivre la maladie, l'épuisement, l'enfermement.
Absolument. Bah, c'est, pour Anastasia, c'était complètement inattendu. Et pire que ça, elle le vit comme une injustice absolue, puisque ça lui tombe dessus sans prévenir et ça contrecarre tous les plans qu'elle avait pour son avenir. Et elle le vit, pire que ça encore, elle le vit comme un anéantissement et une négation de qui elle est, puisque tout à coup, elle se retrouve bloquée chez elle, toute seule. Elle refuse de voir qui que ce soit. Elle ne travaille plus.
Une forme de culpabilité,
presque. Oui, une forme de culpabilité où elle se dit, ça doit forcément venir de quelque part. Est-ce que c'est moi qui mal agi? Est-ce que c'est une espèce de sanction incontrôlable? Et voilà, elle se retrouve quelque part dépouillée de tous les atours et de qu'elle avait réussi à accumuler de sa force dans une espèce de dénuement qui lui est insupportable.
Mmh. Et du coup, elle se retrouve par moments surprise de vivre.
Oui. Oui, parce qu'en fait, elle ne peut plus se mentir. Elle est confrontée à son propre reflet sans pouvoir se raconter des jolies histoires à base de succès professionnel ou de prestige social. Et elle redécouvre une certaine forme de simplicité, en fait, et de presque d'émerveillement dans le fait que parfois la vie réussit à redevenir douce, malgré le fait qu'elle est évidemment atteinte par cette terrible maladie.
Et le temps s'arrête, alors que vous racontez bien qu'elle court après le temps, elle veut le monétiser, j'ai envie de dire, elle veut le rentabiliser.
Exactement, elle veut l'instrumentaliser à sa volonté, et sa volonté, comme on le comprend dans le roman, elle est d'acier, elle est forte. Et là, tout à coup, elle se retrouve contrainte à être dans une forme plus souple d'accommodement et à composer avec une temporalité dont elle comprend qu'elle ne la maîtrise pas.
Donc ça, c'est le temps aussi de presque d'une certaine adaptation, ouais. Réflexion, qui mène, alors, c'est là où vous voulez nous surprendre, c'est que ça mène à la révolte, à une tentation de tout dévaster.
Bien sûr, puisque donc le temps de la maladie dans le roman ne concerne que, on va dire, le premier tiers, et va donner lieu ensuite à une espèce de débordement, de révolte, voire de révolution, puisque Anastasia, qui au début, on va dire, se morfond dans une forme, voilà, de presque de dépression, va tout à coup voir que par cette maladie, qui l'a confrontée à une autre version d'elle-même, peut-être qu'elle va pouvoir accéder après, si après il y a, à une vie libérée des contraintes qu'elle faisait peser sur elle-même, sans peut-être se rendre compte que ces contraintes, elle les avait pas forcément choisies et qu'elle obéissait à des attentes qui n'étaient pas forcément les siennes. Et donc, le roman va évoluer vers cette prise de conscience avec Anastasia qui se dit que finalement, tout ce qu'elle a construit dans sa vie jusqu'alors, jusqu'à la veille de ses 30 ans, peut-être que c'est pas vraiment ce qu'elle voulait et peut-être qu'elle a d'autres choses à accomplir de façon plus désirée, plus risquée et peut-être aussi plus gratifiante.
Mais sortir des rails, dévier, devenir une déviante, puisque c'est votre titre, ça fait peur aussi.
Et c'est pas facile. C'est pas facile, puisqu'il y a un nombre d'obstacles, vous en parliez tout à l'heure, Véronique Olmy, un nombre d'obstacles qui est colossal. Déjà, il faut admettre soi-même, pour soi-même, contre soi-même, que tout ce qu'on a construit pendant des années, en fait, ne nous convient pas. Et alors, on a une forme de culpabilité, voire de rejet, de déni. Et ensuite, il faut faire face au regard des autres. Puisque Anastasia est dans une forme de conformisme social, tout lui réussit, tout le monde est fier d'elle, tout le monde l'admire. Elle a un métier très prestigieux, des études dans des grandes écoles, etc. Et tout à coup, elle se dit peut-être que c'est pas du tout ce dont j'ai envie, peut-être qu'en fait, il faut que je démissionne et que je parte faire autre chose, que je fasse d'autres rencontres. Mais ça implique quelque part de décevoir son entourage, de décevoir sa famille, ses collègues, ses amis. Et puis voilà, elle a aussi conscience du fait que ben voilà, elle est une femme, qu'elle est toujours célibataire, qu'elle a pas encore d'enfant et que ça pose question autour d'elle. Et donc elle bataille avec tous ces obstacles et elle a conscience du fait que potentiellement, si elle s'autorise à vivre pour elle-même selon son propre désir, elle sera considérée comme une déviante. Et elle aura ce stigma social de son entourage et surtout des inconnus qui la considéreront comme quelqu'un d'anormal, voire d'inquiétant.
Vous écrivez, hein, la maladie lui donnerait le courage de risquer de ne plus être et la force de refuser d'être celle qu'elle n'a jamais voulu se voir devenir. C'est bien une question d'avenir aussi. C'est cette, la force de votre héroïne, c'est-à-dire qu'elle est tourner Anastasia, elle est tournée, Capucine Delattre, vers l'avenir.
Bien sûr, puisqu'en fait, son présent lui est insupportable, c'est le présent du cancer, de la maladie, et son passé lui devient aussi. Ce passé d'étudiante, puis de travailleuse taquinoviste, qui est dans une espèce de discipline constante, tout à coup, elle se rend compte que ça ne l'a protégée en rien de sa maladie et ça ne l'a pas forcément rendue très heureuse. Et donc, quelque part, il ne lui reste plus que l'avenir et elle s'y tourne avec enthousiasme et même avec appétit et presque, avec un sentiment d'audace. Et l'avenir va devenir sa raison de vivre et de s'accrocher.
Alors, on peut se dire, hein, quand on lit votre roman, que bon, dans la première partie, on se dit que ben voilà, c'est le destin d'Anastasia, c'est peut-être une question de génération, mais voilà que, eh bien, elle entraîne d'autres avec elle dans cette révolte, à commencer par Iris. Présentez-nous Iris.
Absolument. Alors, Iris a le même âge qu'Anastasia, puisque c'est sa meilleure amie qu'elle a rencontrée au lycée, à l'école. Et Iris travaille aussi dans la même entreprise qu'Anastasia, pareil, avec un poste à responsabilité, etc. Et Iris a un fiancé qui s'appelle Grégoire et qui est son petit ami depuis des années. Ils sont ensemble depuis leurs 18 ans. Et sauf qu'Iris s'ennuie. Iris s'ennuie et elle ose à peine se l'admettre parce qu'elle se dit que finalement, elle est pas si mal sa vie, elle est même peut-être très bien et qu'elle est ingrate de s'ennuyer et d'aspirer à davantage. Donc Iris n'en parle pas, Iris est rongée d'angoisse qu'elle n'ose même pas se formuler à elle-même. Et elle a notamment une espèce de tic, de compulsion, qui en fait repose dans le fait de se vernir les ongles de façon appliquée et systématique tous les jours, comme une espèce de trahison de son besoin d'être bien conforme à son apparence soignée et d'apparaître comme la femme équilibrée, belle et radieuse qu'elle a envie d'être aux yeux des autres. Donc voilà, donc ça c'est Iris. Et donc, Anastasia a un peu pris ses distances avec Iris à cause de la maladie, mais à terme, elle va réussir à retrouver Iris et ensemble, elles vont pouvoir échanger à propos de ces angoisses-là.
Et comment sortir des chemins tracés d'avance? C'est vrai aussi pour Lolita, qui elle, cette fois-ci, est beaucoup plus jeune, 18 ans.
Absolument. Lolita, qui est la demi-sœur d'Anastasia, donc qui a un fort écart d'âge avec elle. Et Lolita, qui est en terminale et qui s'apprête à passer son baccalauréat. Et ses parents, en fait, ont des attentes pour elle, puisqu'elle est très bonne élève, et ils s'attendent à ce qu'elle fasse un peu la même chose qu'Anastasia, à savoir poursuivre de grandes études et être dans une certaine forme de réussite scolaire et sociale. Mais Lolita n'a pas envie de ça. Lolita est très perdue. Elle a besoin de temps. Elle a besoin, comme elle le dit, de peut-être partir en voyage ou travailler ou juste de rien faire pour pouvoir réfléchir à qui elle est et se poser les bonnes questions pour ne pas regretter plus tard, pour être sûre que ce qu'elle va entreprendre pour son avenir, elle l'aura choisi en connaissance de cause. Et même si ça ne marche pas, même s'il y a des échecs ou voilà des difficultés, qu'elle puisse être certaine du fait qu'elle a pris la bonne décision à ce moment-là selon son besoin et son désir.
Il y a quelqu'un qui va, je vais pas dire valider, mais en tout cas conforter ces femmes, c'est Jeanne.
Absolument.
Alors pour le coup, c'est totalement une autre génération.
Oui, Jeanne qui est la grand-mère d'Anastasia et Lolita et qui intervient beaucoup plus tard dans le récit, mais qui va être cette espèce de marraine, de bonne fée ou de figure tutélaire qui va intervenir pas longtemps. Elle est peu présente dans le roman finalement, mais elle a une présence qui à mon sens est très importante, comme une espèce d'ombre portée sur tout le récit qui va venir en quelque sorte valider les questionnements des jeunes femmes, des jeunes filles de mes héroïnes. Et leur donner peut-être l'impulsion dont elles ont besoin pour oser à leur tour.
Ça veut dire que cette question d'être soi-même, elle traverse toutes les générations, toutes les époques.
Absolument, absolument. Et puis, ce qui m'a paru intéressant aussi avec le fait d'avoir des personnages d'âge différents, c'est qu'elles se posent de façon différente à différentes générations et se rebeller à l'époque de Jeanne, qui est nonagénaire dans le roman, ou pour Anastasia, qui est trentenaire, ou pour Lolita, qui est à peine majeure. Ce n'est pas la même chose. Et ça ne prend pas la même forme, ça n'a pas les mêmes enjeux. Et ça m'a paru intéressant de le traiter.
Est-ce que l'écriture, c'est une forme de situation, justement, où on sort des rails, où on dévie un peu?
Évidemment, c'est un exutoire. L'écriture, c'est le lieu où tout est permis. On a un côté tout puissant, on peut créer ex nihilo, on peut inventer, on peut faire se rencontrer, on peut tuer même. Et c'est évidemment un laboratoire pour l'écrivain, pour l'écrivaine, un laboratoire des émotions, des expériences, où on peut justement arriver à cette forme de dialogue, à cette forme d'exploration des potentiels. Et puis soi-même, en tant qu'auteur, on met de soi, on met de ses propres questionnements et on se surprend à leur donner peut-être des évolutions auxquelles on ne s'attend pas.
Véronique Colmy, vous avez lu Les Déviantes de Capucine
oui.
Delattre.
Oui, je trouve que c'est intéressant que son héroïne soit frappée par le cancer, parce que c'est finalement une maladie du cœur, de la cellule. Et il me semble que votre livre, c'est justement sur le cœur de l'existence. Qu'est-ce que c'est le cœur de mon existence? Il y a ce pourquoi vous avez été programmée avec... Encore une fois, tant d'amour et d'espoir et de constance et finalement une sorte de perfection, les grandes écoles, les grandes ambitions. Mais tout ça, finalement, vous fait dévier, c'est le cas de le dire, du cœur de vous-même. Et le temps de détricoter toutes ces peaux, tous ces manteaux qu'on vous a mis dessus, avec lesquels on vous a habillé, avec tant de rêves à votre place et que vous avez cru faire vôtre. Je trouve que c'est très bien détricoté dans le livre et c'est très C'est fait d'une façon très dans un style qui est très 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 subtil, qui est à la fois poétique et très dans des situations très crues, parce que le cancer, vous n'éludez rien, et en même temps très dans les détails et les dédales du psychisme.
C'est surprenant aussi, hein, parce que Capucine Delatte, je pense que vous êtes sans doute la Benjamine de cette rentrée littéraire. c'est surprenant, non, cette maturité,
oui,
quand même dans ce livre de.
Oui, mais comme vous le disiez, Capucine, on écrit aussi avec tout ce qu'on maîtrise pas, donc tout l'inconscient. Et je pense que vous avez en vous non seulement votre expérience, l'expérience des autres, les lectures et d'où vous venez. Et donc ça fait, si on est sensible et qu'on structure cela dans un récit qu'on va mener à son terme, il y a soi et plus que soi. Je pense que l'écrivain porte plus que soi-même, et c'est vraiment le cas de Capucine, je pense.
Est-ce que ça pose la question, Capucine Delatre, de c'est quoi une vie réussie?
Évidemment, c'est la question que mes héroïnes se posent tout au long du roman, puisque en fait elles ont
c'est
passé...
C'est elles qui ont la réponse.
Oui, elles l'ont, mais elles comprennent petit à petit qu'il leur faudra du temps, du courage et surtout un soutien pour aboutir à une réponse, et qu'elles ne pourront pas y parvenir seules. Et c'est là leur force, d'arriver à se retrouver ensemble et d'accepter qu'elles n'ont pas forcément de réponse immédiate, mais qu'ensemble, en s'écoutant, en prenant le temps de prendre soin les unes des autres, elles pourront en tout cas prendre la bonne direction et aboutir ensemble à une forme de réponse. Et le roman en lui-même ne cherche pas à donner de mode d'emploi ou de réponse très précise sur ce qu'est une bonne vie. Au contraire, il montre que une bonne vie, une vie réussie, c'est différent pour chacun et chacune, et que c'est pas grave si cette bonne vie dévie de la norme et n'est pas conventionnelle ou ne ressemble pas à celle qu'on avait prévue.
Oui, puis même avec le titre, les déviantes, ce n'est pas non plus des vies complètement farfelu.
Absolument pas. Et ça m'intéressait justement d'avoir ce titre, parce que quand on voit le titre Les Déviantes, on se dit mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont tué des gens. Mais pas du tout. C'est une forme de déviance intérieure, intime presque. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, dans le roman, finalement, effectivement, elles font pas la révolution, elles vont pas casser des choses, mais pour elles le vivent comme un saccage, elles le vivent comme une révolte, elles le vivent comme quelque chose de total, d'apocalyptique presque. Et quelque chose d'aussi simple que de penser à démissionner, à partir ou à partir en voyage. Pour elle, ça a tout d'une déviance, avec tout ce que le terme peut avoir de fort et de total et d'irréversible.
Une libération.
Absolument.
Les Déviantes de Capucine Delatte, c'est paru chez Belfond. Et puis vous l'avez reconnu, c'est la voix de Stéphanie Gallet qui lit un extrait de ce livre.
Les cheveux courts, l'air un peu trop joyeux, quelques théories fumeuses sur le sens de la vie et les organisations qui régissent le monde. Une rencontre banale à pleurer, en soirée étudiante, lui en fin d'études, elle tout juste en première année. Une séduction dans les règles de l'art, qui prenait son temps mais pas trop, une chronologie au rythme rêvé, présentation aux amis, à la famille, 6 mois de tour du monde, emménagement, pendaison de crémaillère, fiançailles, vie commune. Et maintenant, depuis 3 ans, plus rien. Ça piétine, elle le sent. Les gens s'impatientent, demandent des nouvelles du mariage, des enfants, du futur, du supplémentaire. Parce que là, clairement, ça commence à faire défaut, à faire tâche même, un peu désordre. C'est qu'il doit y avoir un hic, quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas dit, qui finira par exploser. Et tout le monde sera là pour le commenter, en rire, le montrer du doigt. Et ça, elle ne le supporterait pas.
Connu Aretha Franklin, Respect, c'était en 1967 déjà une chanson engagée au pied de la lettre aujourd'hui avec Véronique Olmy pour Les Évasions Particulières, publiée chez Albin Michel, et Capucine Delattre pour Les Déviantes chez Belfond.
Au pied de la lettre, RCF.
Une petite rubrique qui s'inscrit dans le programme de Au pied de la lettre maintenant. Seconde chance. Et oui, si on donnait une seconde chance au roman paru durant ce premier semestre 2020, des livres sortis en plein confinement alors que les librairies étaient fermées, que les lecteurs étaient aussi enfermés chez eux, des romans qu'on ne peut pourtant pas passer à la trappe. Bonjour Lorraine Fouché.
Bonjour, bonjour, merci pour cette seconde chance.
Voilà, vous avez publié « J'ai failli te manquer » aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'était en mars, juillet, mars-mai, quelque chose comme ça?
Alors, en fait, ça devait être en mars. Avec le confinement, c'est sorti en mars en numérique et début juin en livre papier. C'est un peu bizarre cette année.
C'est un peu bizarre, hein. Mais alors, il faut quand même parler de « J'ai failli te manquer ». Allez, vous avez 3 minutes pour nous convaincre.
Eh ben génial. Alors, J'ai failli te manquer, c'est mon 21e livre. Il vous emmène à l'île de Groix, à Quiberon, à Carnac. Donc ça, c'est la Bretagne.
Et c'est votre Bretagne, en plus.
Oui, et puis aussi à Paris, en Namibie. On va dans le désert. Alors, c'est un roman à 3 voix, avec Cerise la mère, Cerise la fille, Lise la mère et Axel le père. Je vous raconte.
Allez, en 2 mots, cette histoire de famille, pas toujours très simple.
C'est vrai. Alors, ils vivent les mêmes choses, tous les trois, mais chacun de son point de vue. En fait, l'action du livre se déroule sur 40 ans. Lise et Axel se rencontrent, s'aiment. Lise attend un enfant, elle rêve d'avoir un petit garçon. Et patatras, c'est une petite fille. La mère et la fille vont se chounier, se chiffonner, se cabosser pendant des années. Jusqu'à ce que l'année des 17 ans de Cerise, le père qu'elles adorent toutes les deux meurt et elles vont pour la première fois se retrouver en tête à tête. Ça va pas aller du tout, c'est-à-dire que la mère, elle aime sa fille mais elle adorait son mari et elle dit à sa fille le jour de l'enterrement « J'aurais préféré que tu meurs toi plutôt que lui ». Et la fille qui aime sa mère mais qui adorait son père, ben, lui répond la même chose. J'aurais préféré que vous mouriez, vous. Non. Alors, regardez comme je triche. En fait, dans le livre, elle se tutoie, mais moi, je vous voyais ma mère et c'est un peu adapté de mon histoire. Elle lui dit, j'aurais préféré que tu meurs, toi, plutôt que lui. Et elles vont se retirer, se repousser comme des amants réfractaires pendant des années jusqu'à ce qu'un nouvel élément change la donne. Et là, la tendresse va s'engouffrer dans la brèche, effacer les années perdues et les transformer en heures gagnées. Voilà. Donc c'est un livre qui parle de mère et de fille, mais qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour s'aimer et que le bonheur est réservé à tout le monde.
Et comme on le retrouve très souvent dans vos livres, hein, il y a toujours des situations parfois difficiles, mais toujours une fenêtre qui s'ouvre vers l'avenir, vers le bonheur. Merci Lorraine Fouché. Alors je rappelle, hein, c'est « J'ai failli te manquer », c'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Le confinement, vous l'avez vécu comment, Lorraine Fouché?
Alors je l'ai vécu comme les autres, mais comme une épreuve, mais avec aussi le plaisir de mon chien, que je sois là toute la journée, l'occasion de renouer contact et d'avoir très régulièrement certains amis ou des membres de ma famille que je voyais pour les mariages, les baptêmes, les enterrements. Mais là, on s'est préoccupés les uns des autres. C'était un espoir à transporter les montagnes et à dégommer les virus. Et puis aussi, j'ai eu besoin d'écrire pour épauler. Alors évidemment, c'était un battement de papillon à côté des efforts abyssaux des soignants. Mais je me suis dit que des milliards de papillons ensemble, ça faisait des masques qui protègent. Et donc, tous les jours, sur les réseaux sociaux et puis par mail pour certaines personnes, j'écrivais le journal de confinement de mon chien, de mon petit Westie. Et c'était l'occasion et de passer des messages importants et de faire sourire les gens. Voilà, donc je l'ai vécu comme une occasion encore plus importante de s'entraider les uns les autres.
Merci Lorraine Fouché, et puis ben, continuez, prenez soin de vous. Au revoir.
Vous aussi, prenez tous soin de vous. Et l'année prochaine, j'aurai un autre livre. Et l'année prochaine, j'espère qu'on n'aura plus de masques et qu'on pourra se serrer dans les bras les uns des autres.
Merci beaucoup.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Bonjour Stéphane Bataillon.
Bonjour Christophe.
Alors vous étiez venu déjà, vous connaissez l'émission, vous êtes déjà venu plusieurs fois nous parler de poésie. Et maintenant, belle surprise de la rentrée, vous allez venir chaque semaine nous partager un moment de poésie.
Un poème qui résonne avec l'actualité.
On va aussi écouter sur l'actualité de la poésie, sur l'actualité, bah, sur aussi des petits moments de poésie que vous allez pouvoir nous proposer avec des lectures. Voilà, vous êtes, je le rappelle, hein, journaliste, La Croix Hebdo. Vous êtes aussi poète vous-même. Je rappelle votre dernier recueil Contre la nuit, c'était paru aux éditions Bruno Doucet. Et puis la poésie, c'est votre passion. Un jour, vous nous en parlerez plus longuement. Oui. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler. D'une poète
de la Renaissance, de Louise Labbé, poète, alors femme étonnante, hein, une des premières grandes féministes, si on peut dire, femme très libérée, qui a eu beaucoup d'amants, qui a manié les armes, elle se déguisait en garçon pour accompagner son frère dans des campagnes militaires pour manier les armes, elle séduisait de nombreux poètes, hein. Elle a eu des amants comme Clément Marot par exemple qui lui a fait des poèmes, et je vous en parle parce que sort chez Calmant Lévy une biographie romancée, La Scandaleuse, qui raconte à la première personne cette vie formidable. Et Louise Labbé nous a laissé de nombreux poèmes, dont 24 sonnets qui disent le désir féminin, qui disent l'amour, et que je vous propose d'écouter.
Alors allons-y, rappelez simplement pour la biographie, à
Michel,
qui la doit-on ?
Péramore, La Scandaleuse, le roman de Louise Labbé, chez Calmann Lévy.
On vous écoute.
Ne reprenez d'âme si j'ai aimé, si j'ai senti 1000 torches ardentes, 1000 travaux, 1000 douleurs mordantes, si en pleurant j'ai mon temps consumé. Las, que mon nom n'en soit par vous blâmé, si j'ai failli, les peines sont présentes, n'aigrissez point leurs pointes violentes. Mais estimez qu'amour à point nommé, sans votre ardeur d'un Vulcan excusé, sans la beauté d'Adonis accusé, pourra, s'il veut, plus vous rendre amoureuse. En ayant moins que moi d'occasion, et plus d'étranges et fortes passions, et gardez-vous d'être plus malheureuse.
Magnifique. Il faudrait le réécouter encore, mais on peut toujours.
C'est un peu une langue, hein, dont on n'a plus l'habitude. C'est son dernier sonnet sur les 24, donc c'est un peu son testament poétique.
Merci beaucoup, Stéphane Bataillon. Donc, Michel Péramore, ça s'intitule
La Scandaleuse, le roman de Louise Labbé.
Voilà, paru chez Calmann Lévy. Eh bien, rendez-vous est pris. On se retrouve la semaine prochaine
avec un autre
coup de cœur poésie.
Au pied de la lettre. RCF.
Jean-Nicole, mais vous le soulignez tout à l'heure, hein, il y a aussi un sens poétique de l'écriture de Capucine Delattre. La poésie, c'est ce dont on a besoin, tout particulièrement en ce moment.
Je pense qu'on en a tout le temps besoin, qu'on le ressent plus en ce moment. C'est une échappée, c'est quelque chose qui transfigure le réel. C'est comme quand on voit une exposition d'un photographe, on se dit mais c'est pas possible, parce que moi je vois la même chose, mais pourquoi je pourrais pas prendre cette photo ? C'est-à-dire qu'on est dans la même réalité, mais c'est une façon de la capter qui la sublime et qui nous la donne à voir d'une façon. Moi j'essaye de lire chaque jour des poèmes, j'essaye de les réapprendre. Parce que je trouve toujours formidable quand tout d'un coup, dans le quotidien, il y a un vers qui nous vient
qui
à l'esprit. Par exemple, regarder des nuages. J'aime beaucoup, moi, les nuages. Et cet été, j'avais toujours c'est pas un vers, parce que c'est des poèmes en prose, mais les phrases de Baudelaire sur les nuages dans le poème L'étranger. Enfin, je trouve que c'est formidable quand la poésie surgit, parce que c'est comme un levain, en fait. C'est ce qui fait monter vraiment la beauté de cette terre sur laquelle on vit, qu'il ne faut pas oublier quand même, parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui est laid, mais c'est très beau aussi.
Mmh. Capucine de Lattre, c'est votre premier roman, on l'a dit, on l'a redit, mais dans une autre vie, vous êtes aussi Mademoiselle Bouquine.
Eh oui.
Alors, on ne peut pas passer ça sous silence, un blog que vous tenez depuis 6 ans.
Oui.
Plus de 500 chroniques.
Oui, oui.
Mais alors, vous avez le temps d'écrire maintenant, en plus du temps de lire.
Vous aviez quel âge quand vous avez commencé ?
J'avais 13 ans. J'avais 13 ans et je lisais déjà beaucoup et j'avais cette envie d'en parler à d'autres personnes que mes pauvres amis qui en avaient plus cassé que j'en parle de mes lectures.
Vous avez cassé les pieds, oui.
Absolument, oui, oui. Et donc, j'ai créé ce blog qui est encore là et sur lequel j'écris encore avec beaucoup de plaisir. Non pas qu'il me rapporte de l'argent ou de la célébrité que ce soit, mais c'est pour moi une plateforme assez précieuse de partage et d'échange intellectuel et littéraire et juste tout simplement de réjouissance autour de la littérature qui m'a permis de rencontrer tout un tas de passionnés, de rencontrer des auteurs, de lire des choses que j'aurais jamais pu lire autrement. Et voilà, c'est en quelque sorte une forme de jardin secret littéraire, pas très secret, puisqu'il est sur Internet, mais voilà. Mmh.
Très bien, bah écoutez, on arrive au terme de cette émission, il y aura encore plein de choses à dire, notamment un de vos chapitres, Véronique Olmy, est intitulé « Mensonges sincères ».
C'est pour les actrices.
Oui, mais c'est un peu la littérature aussi, non ?
C'est un peu la littérature aussi. Est-ce que je peux juste faire une petite annonce ?
Allez-y, annoncez et après
je ferai une lecture musicale avec la pianiste Dana Tchokarli des Évasions particulières à la Maison de la Poésie le 15 octobre à 20h.
C'est noté. Tous, on espère que, avec un masque, on y arrivera.
Masqué.
Voilà, bien sûr. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Les Évasions particulières, Véronique Olmy, c'est publié chez Albin Michel. Les Déviantes de Capucine de Lattre chez Belfond. On a parlé aussi de J'ai failli te manquer de Lorraine Fouché aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et puis La Scandaleuse, le roman de Louise Labbé par Michel Peyramore chez Calman Lévy. Merci à Pierre-Henri Paget, toujours fidèle à la réalisation. Merci à Stéphanie Gallet, Stéphane Bataillon, Lorraine Fouché. Merci Véronique Olmy.
Merci.
Capucine de Lattre.
Merci à vous.
Au pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter l'émission sur le site www.rcf.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Réfugiez-vous donc dans les livres.